France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Que cachent les sorcières ? Cette série explore les représentations cristallisées dans cette figure, la sorcière, dont l'histoire ressemble à une agglutination de fantasmes. Deuxième épisode, elles savent tout, elles mangent tout, prophétesses et ogresses. Obsession à l'égard de la sorcellerie dans la période allant du 15e au 17e siècle en Europe et en Amérique du Nord. Nous en avons parlé dans le premier épisode et c'était les femmes majoritairement qui étaient accusées, pendues ou brûlées vives. Les sorcières étaient perçues, comme nous l'a bien expliqué Armelle Lebras-Chopard hier, comme des femmes au désir sexuel insatiable, couchant avec le diable. Puis finalement avec tout le monde. Mais il y a d'autres représentations qui ont rejoint celle-ci et la littérature nous le rappelle. Prophétesse portant malheur, fille de Cassandre en somme. Cette idée se marie très bien à celle de la proximité avec Satan. Mais encore, les bouches savantes des sorcières se muent volontiers en bouches avides, dévoreuses d'enfants notamment. Après les loups et les ogres au masculin dont on trouve des traces évidentes dans les contes de Perrault au XVIIe siècle, les frères Grimm, en 1812, mettront en scène avec prédilection les ogresses, au féminin cette fois. De tout cela, nous parlons ce matin avec deux spécialistes et personnellement, je me réjouis beaucoup. Bonjour Natacha Rimasson-Fertin.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Grenoble. Merci aux équipes de France Bleu Isère. Vous êtes professeur de littérature allemande à l'université Grenoble-Alpes. Vous avez publié la première traduction, une des récentes traductions reprises en français des contes des frères Grimm aux éditions José Corti en 2009, rééditées en 2017, sur lesquelles vous avez un savoir extraordinaire. Bonjour Véronique Léonard Roch.
Bonjour.
Vous êtes professeur en littérature comparée, vice-présidente de l'Université de Bretagne occidentale, en charge du pôle recherche, sciences humaines et sociales. Vous avez notamment co-dirigé avec Philippe Ménard un collectif passionnant paru chez Quimet en 2015, Cassandre, figure du témoignage. Eh bien, partons de Cassandre, justement, bien représentée par Jean Giraudoux comme celle qui, à la conviction d'Andromaque que la guerre de Troie n'aura pas lieu, s'oppose fermement, la guerre aura lieu, nous dit Cassandre.
La guerre de Troie n'aura pas lieu, Cassandre. Je te tiens à Paris, Andromaque. Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le recevoir, on va bien lui envelopper sa petite Hélène et on la lui rendra.
On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène et la guerre de Troie aura lieu.
Oui, si Hector n'était pas là. Mais il arrive, Cassandre. Il arrive. Tu entends ses trompettes ? En cette minute, il entre dans la ville, victorieux. Je pense qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà 3 mois, il m'a juré que cette guerre était la dernière.
C'était la dernière. La suivante l'attend.
Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que l'effroyable ?
Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de 2 bêtises, celle des hommes et celle des éléments.
Pourquoi la guerre aurait-elle lieu ? Paris ne tient plus à Hélène, Hélène ne tient plus à Paris.
Il s'agit bien d'eux.
Il s'agit de quoi ?
Paris ne tient plus à Hélène, Hélène ne tient plus à Paris. Tu as vu le destin s'intéresser à des phrases négatives ?
Je ne sais pas ce qu'est le destin.
Je vais te le dire. C'est simplement la forme accélérée du temps. C'est épouvantable.
Vous entendez là la première scène de « La guerre de Troie n'aura pas lieu », cette pièce de Jean Giraudoux de 1935 qui a été ici adaptée par André Beuclair pour la RTF en 1952. Elle tient bon, mais elle est très calme, Cassandre, elle est presque raisonnable. Est-ce, disons, un accent particulier que Giraudoux a voulu mettre dans ce personnage par rapport aux mythes antiques et aux représentations anciennes? Qu'en pensez-vous, qu'en savez-vous, Véronique Léonard Roch?
Oui, absolument. Elle est complètement raisonnable. Elle paraît détachée, hein, elle paraît à distance des événements. En fait, elle est dans une lecture analytique de la situation. Et en cela, toute faculté de divination a disparu. Hein.
Elle est moins perchée, aurait tendance à dire, que dans les représentations de l'Antiquité. Mais quand Cassandre annonce la guerre de Troie, personne ne la croit. Bon, on va expliquer pourquoi, parce qu'un sort lui a été jeté. Elle sait tout, mais personne ne la croit jamais. Mmh. Mais quand même, elle est, disons, ferme. Est-elle excitée? Est-elle possédée, la vieille Cassandre, celle de l'Antiquité, par rapport à celle de Giraudoux?
Elle est tout simplement habitée du dieu, hein, en position de divination. Le dieu s'empare d'elle et elle est en extase. Elle sort d'elle-même. Elle n'est plus qu'un canal de communication.
Oui.
En fait, sa divination est intuitive. Elle est dérivée. Mmh. Donc, la figure est passive. Au sens où elle reçoit ce que le dieu lui imprime et fait d'elle, elle est assujettie à lui. Cela se passe dans la douleur. C'est ce qui peut expliquer en effet cet aspect perché dont vous parliez, c'est-à-dire qu'elle crie, elle gémit.
Ah oui, elle dans Homer, c'est clair.
Pas Homer.
Non, alors où après
chez Eschyle.
Hein,
non, elle n'est pas du tout inspirée chez Homer. Elle n'est pas prophétesse encore.
D'accord.
Il n'y a aucun lien à Apollon. Chez Homer, elle est la première à voir, mais parce qu'elle a le regard perçant, elle voit son père qui ramène le cadavre de son frère Hector et elle appelle la cité au deuil et à gémir. Donc en fait, à partir de là, on a le motif de l'œil à serrer, mais il n'y a aucun sur rationnel ou suprarationnel. Hein, elle est simplement celle qui voit bien et qui voit loin.
Comme chez Giraudoux.
Alors, comme chez Giraudoux, simplement Giraudoux, tout simplement le contexte a changé, les paradigmes ont changé, les cieux sont vides désormais, on est dans l'entre-deux-guerres, il n'y a plus de garantie de transcendance. Et d'ailleurs, s'il y a des dieux dans la pièce de Giraudoux, ils n'ont aucune action, enfin ils n'ont aucun effet sur l'action. Hein. Mmh. En fait, ce sont des espèces de pantins. Mais sans aucune force sur l'action dramatique. L'action dramatique, ce sont les hommes qui la font. Et Cassandre est simplement celle qui décrypte avec toute sa lucidité, qui fait bon usage de sa raison et de son sens critique. Sens critique et lucidité que les autres ne veulent pas entendre parce que son discours, qui est un discours qui annonce la catastrophe, est un discours qui dérange.
Bon, en fait, elle s'est refusée à Apollon, si j'ai bien compris. Donc, au départ, il lui avait donné un don parce qu'il l'aimait bien, celui de tout savoir. Mais comme elle se refuse à lui, il ajoute un sort. Personne ne t'écoutera jamais. Donc, elle devient une figure du malheur. On a l'impression que le malheur ne vient pas du destin et elle le sait à l'avance, mais c'est elle qui la porte. Donc c'est une figure féminine de la promesse de malheur, comme si c'était elle qui le produisait, ce malheur. C'est ça?
Non, parce que en fait, elle est simplement celle qui se trouve en surplomb du temps.
Hein, elle n'est pas dans l'Antiquité comme ça, comme celle, la méchante.
Si, elle est perçue comme un oiseau de mauvais augure.
Voilà.
Mais en fait, elle ne l'est pas fondamentalement. Elle est celle qui dit vrai. Mm-hmm. En fait, elle est la sage. Hein, dans l'Antiquité grecque, elle est l'alétomantis, hein, c'est-à-dire la prophétesse véridique. Elle est une figure de la vérité. Hein. Et en fait, c'est la vérité qu'elle annonce qui dérange. Hein.
Oui, alors ce point sur la vérité, j'ai un peu cherché, bon c'est vrai que j'aime beaucoup les contes, j'ai cherché des figures, par exemple chez Perrault, puis chez Grimm, de savantes comme ça, chez les sorcières, qui ne seraient jamais crues et qui du coup passeraient pour celles qui apportent le malheur alors que normalement elle ne fait que le relater. Alors Natacha Rimasson-Fertin, vous allez nous éclairer là-dessus. Y a-t-il des sorcières de ce genre? Moi, j'en vois juste peut-être une. C'est Pierre Péjus, que nous recevrons demain, qui dit dans la Petite Fille dans la Forêt des Contes que dans Blanche-Neige, par exemple, la marâtre sait toujours où retrouver Blanche-Neige. Elle part dans la forêt, elle s'égare, Mais en fait, la marâtre sait la retrouver. Là, je trouve qu'on a une figure du savoir dans cette sorcière-là. Est-ce banal ou est-ce exceptionnel, ces Cassandres des contes populaires?
Alors, c'est intéressant parce que cette sorcière, elle est quand même bien aidée par son fameux miroir. Hein.
C'est vrai.
Elle le sait pas toute seule. Elle le sait pas toute seule. Et alors, c'est amusant parce qu'il y a, c'est un personnage assez complexe finalement, les sorcières chez les frères Grimm. On aura plein de facettes qu'on va voir, mais peut-être pour rester sur celle qui sait tout. On a un personnage. Alors, c'est un conte qui est assez peu connu, où on a un personnage féminin qui n'est pas désigné comme sorcière, mais qui a un livre magique. Et en fait, le point commun avec la sorcière de Blanche-Neige, c'est la médiation par l'objet. En fait,
qui est masculin,
obligé...
non? En fait, je veux dire, c'est le miroir. Excusez-moi, mais il est genré ou
masculin.
Pas?
Alors, il est neutre en allemand.
Et le livre
parce qu'il
aussi,
a un petit diminutif. Alors, c'est Der Spiegel comme l'hebdomadaire, mais c'est Spieglein. Et le livre, c'est neutre aussi. Donc là, on peut pas vraiment s'appuyer sur le genre des objets. En tout cas, voilà, on a une médiatisation du savoir qui est incarnée par un objet. Dans ce genre de personnage.
Bon, donc il n'y a pas vraiment l'équivalent de Cassandre, celle qui sait tout et qui passe pour un oiseau de malheur, dans les figures populaires européennes de sorcières, disons, à la fin du Moyen Âge. On n'a pas ça.
Ça serait à creuser, mais à première vue.
Bon. Mais chez les Grecs, c'est une obsession. Alors, il y a quand même des prophétesses de plusieurs sortes. Les Sibylles sont très sympathiques, je crois. La Sphinx, moi, me fait très peur. Je ne sais pas vous, celle d'Édipe qui sait tout, mais qui retrouve là un rival qui va déjouer sa devinette. Mmh. Elle est quand même bizarre, hein, avec sa tête de femme, son corps de sphinx, c'est très étrange. Et quant à la Pythie, alors elle est carrément perchée, elle a un langage tellement incompréhensible qu'il faut des hommes pour l'analyser. C'est intéressant ça quand même.
Oui, tout à fait. Alors, les Sibylles, comme la Pythie, sont des inspirées d'Apollon, hein, de même que Cassandre. Donc c'est vraiment un point commun entre ces trois types de figures, et ce sont des prophétesses dans les trois cas. Mais les Sibylles et la Pythie sont des figures, j'ai envie de dire, beaucoup plus simples que celles de Cassandre. Alors la Pythie, en effet, elle annonce, enfin, elle lit les oracles ou elle dit les oracles sous l'effet du dieu, sous l'effet de la mania. Mais son langage est tellement énigmatique, tellement voilé, tellement crypté, qu'il faut qu'il soit déchiffré par les prêtres,
qu'est-ce
qui
que
sont
ça,
en effet des hommes.
Qu'est-ce que ça dit, tout ça?
Alors, ça sur dit en effet qu'il y a une forme de passivité de la figure féminine, qui est juste un canal qu'emprunte le dieu, dont s'empare le dieu, mais que, en tout cas dans le cas de la Pythie et de la Sibylle, il faut que ce soit des hommes qui passent par le logos. Ce sont les hommes qui sont du côté du logos, c'est-à-dire du langage articulé, du discours, et qui vont donner le sens, donner le contenu. Elle n'est qu'un instrument, elle n'est qu'un agent au service d'eux. Et la différence avec Cassandre, c'est que Cassandre, la Cassandre d'Eschyle, est un personnage beaucoup, beaucoup plus complexe et plus profond, parce qu'elle passe par la même phase que la Pythie, cette phase de l'extase, hein, de la transe, dans laquelle elle s'exprime par gémissement, par onomatopée, par cri. C'est un langage quasi animal, hein, qui est un langage de la déliaison, qui n'est pas un langage de la raison, pour le coup. Mmh. Seulement, dans un deuxième temps, Eschyle la fait dialoguer avec le cœur, et lors de ce deuxième temps, elle décrypte elle-même l'aspect voilé du message qu'elle a proféré sous l'action ou sous l'influence, sous l'emprise d'Apollon. Et donc en cela, elle est supérieure.
Elle est dangereuse.
Ben exactement. Ouais. En fait, le cœur la qualifie même de trop savante pour une femme. Hein. Et tout est là. C'est une figure du savoir excessif pour une femme. Donc ça nous dit que...
Hubris féminin. Quoi.
Exactement. Hein, une femme doit s'en tenir aux assignations de genre que la société de son temps met en place. Hein, et quand elle sort de ces catégories-là, hein, et qu'elle s'aventure notamment dans le territoire du savoir, mais aussi le territoire de la guerre et le territoire de la cité, c'est-à-dire la sphère publique,
oui,
elle n'est pas la bienvenue. elle est mal perçue, elle est l'autre, et elle est celle du coup qu'on ne croit pas et qu'on veut renvoyer à ses foyers.
Et pourquoi est-elle violée, d'après vous, par Ajax? D'ailleurs, l'est-elle chez Homère ou
non,
seulement?
Alors, ni chez Homère, ni chez Eschyle, en fait, ouais. C'est un motif, donc un mythème, qui apparaît assez, beaucoup plus tardivement, à la période hellénistique, chez Lycophron. Et en fait, cela redouble sa position de victime, parce que on a vraiment, en Cassandre, une figure qui est l'objet d'une violence de genre perpétuelle. Violence du dieu, à son égard, qui lui impose cette divination dont elle ne veut pas, en quelque sorte, qui l'a fait tant souffrir, comme je le disais. Et on le voit bien dans les mises en scène, elle exprime cette douleur, cette souffrance. Mais ensuite, elle est celle aussi qui subit la violence de genre de sa famille, en particulier alors chez Lycophron ou chez d'autres dont on reparlera, Christine de Pisan peut-être.
On va y venir.
En fait, comme elle ne cesse d'annoncer la chute de Troie, même au camp troyen, chez les siens même, elle est l'étrangère, elle est celle qu'on ne veut pas écouter, elle est celle qui dérange les logiques de guerre. Donc on l'enferme et parfois on la frappe. C'est le fait de son père, de ses frères. Et pour en revenir au viol, on voit que c'est un autre type de violence de genre. Mais cette fois-ci, on est à Mycène. On est à Troie au moment du sac de Troie, pardon. Donc en fait, les Grecs sont en train de gagner. Et en fait, elle est violée par un Grec. Donc elle subit aussi le sort des femmes. En contexte de guerre.
Alors ça, la sorcière, parce qu'elle a un côté franchement sorcière, elle fait peur à tout le monde, violée, je crois que c'est vraiment étranger à notre monde médiéval occidental. Hier, nous avons appris à quel point les sorcières étaient perçues du 15e au 17e siècle comme les putains du diable, donc celles qui couche avec le diable et avec tout le monde. C'est plutôt la figure du désir sexuel que du viol passif et brutal sur elle. Est-ce que dans la littérature des contes, alors il y a eu des gens évidemment avant Perrault, il y a eu notamment cet incroyable Italien Giambattista Basile qui avait déjà anticipé le Petit Poucé, qui avait Hansel et Gretel, mais aussi La Belle au Bois Dormant au milieu du XVIIe siècle. Mais est-ce que dans les contes, jusqu'au Grimm, on a des sorcières violées ou c'est un impossible tant elles sont puissantes? Natacha Rimasson-Fertin.
Alors ça, j'ai vraiment pas l'impression. J'avoue que ça pose, ça donne envie de creuser. Ça pose une colle. Je pense qu'elles sont, on a cette image quand même de puissance qui prédomine. Et ça, c'est un petit message que les Grimm parviennent à glisser dans leur texte aussi. Tout simplement. Parce que elles ont cette position à l'écart, on se méfie d'elles, on ne cherche pas à croiser leur chemin, et ce sont des choses qu'on ajoute dans le texte. Alors pas dans, vous avez évoqué la première date, la date de la première édition du recueil des frères Grimm en 1812. Il faut savoir qu'il atteindra la forme qu'on lui connaît aujourd'hui seulement à peu près 50 ans plus tard, en 1857.
Il y a plein de versions de Hansel et Gretel.
Alors, il y a plein de versions et elles sont surtout réécrites. Alors, on peut parler d'Hansel et Gretel, mais
on va y venir après. Voilà. On va un tout petit peu rester sur le cadre. Mais je vais vous demander, surtout là, si on a des figures de sorcières violées. Moi, j'ai l'impression qu'on a surtout des sorcières qui maîtrisent très très bien leur sexualité.
Bon, tout à fait.
Évidemment, la figure du balai entre les jambes, je ne sais pas si elle est, si elle est typique Walt Disney ou si elle existait avant. Tiens, justement, je vous demande à vous, Natacha Rimasson-Fertin, depuis quand les sorcières ont des balais entre les jambes?
certainement depuis longtemps, mais j'avoue que chez les frères Grimm, elles ont très rarement ce balai. Elles ont très rarement ce balai. Et d'ailleurs, c'est assez rare qu'on les désigne, qu'on les qualifie de sorcières. Ce sont plutôt des vieilles femmes. Et même dans les contes où on a ces personnages les plus emblématiques, la première chose qu'on va dire d'elles, c'est une petite vieille, une femme vieille et petite. Et c'est seulement après, dans le texte, en fait, c'est comme si on posait des petits cailloux sur un chemin, alors sans faire de jeu de mots avec Hansel et Gretel, les textes renvoient les uns aux autres. Et en fait, à partir du moment où on a un élément qui va être une caractérisation du personnage qui est donnée, elle reste présente en arrière-plan chez le lecteur qui va grappiller, qui bien sûr ne lira pas les textes à la suite, mais on va avoir par recoupement un personnage type de la sorcière qui va se constituer. Mmh. Alors qu'en fait, c'est une vieille femme et ça permettra de revenir à cette question peut-être du savoir.
Oui, il y a pourquoi des vieilles qui savent des trucs quand même.
Voilà, j'ai réfléchi, j'ai creusé en vous écoutant. Parce que ce sont des figures du destin et elles ne sont pas les seules.
Donc, j'ai bien entendu que le mot sorcière n'est pas toujours prononcé, mais bien évidemment, il y a plein de représentations agglutinées là et pour constituer le personnage de la sorcière et ces petites vieilles savantes qui inquiètent tout le monde. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'elles font partie des représentations qui ont constitué la sorcière. Alors, pour rester un instant encore sur Cassandre, ce qui est quand même passionnant, c'est que certaines femmes ont essayé de rendre ce personnage plus actif et plus positif, et notamment une dame. Alors, qui est cette dame, Christine de Pisan, qui écrit La Cité des Dames en 1405 ? Expliquez-nous, Véronique Léonard Roch.
Alors, c'est une autrice qui va réussir à vivre complètement de sa plume. Elle est veuve, très jeune, elle doit se prendre en charge ses enfants, et elle va produire une œuvre littéraire assez volumineuse et tout à fait intéressante. Et elle est célèbre, alors, pour cet ouvrage que vous avez cité, le livre de la Cité des Dames, qui est effectivement peut-être son œuvre la plus connue, qui est sa réaction, en fait, à ce qu'on appelle la querelle des femmes, qui est une controverse assez longue, qui va de la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, et qui fait s'opposer par ouvrages publiés, par publications successives, ceux qui défendent les femmes et ceux qui les accusent. Hein. Enfin, ceux qui défendent les femmes face aux accusations, puisqu'on a des textes très violents, très misogynes, hein, comme le roman de Troie de Jean de Main, auquel réagit justement Christine de Pisan. Et dans La Cité des Dames, elle entend justement mettre en avant la vertu des femmes, hein, et mettre à bas tous ces stéréotypes négatifs qui leur sont associés. Donc elle va réunir, hein, symboliquement, dans une ville forteresse, un certain nombre de dames vertueuses de l'Antiquité, de l'histoire, parfois de l'histoire contemporaine, des saintes, et elles vont toutes montrer combien les femmes sont des êtres dignes, vertueux et dignes d'admiration.
Eh bien, on l'écoute, Christine de Pisan, La Cité des Dames, 1405, où elle parle notamment de Cassandre.
Cassandre, cette noble vierge troyenne, fille du roi de Troie Priam et sœur du preux Hector, elle qui fut si instruite qu'elle n'ignorait aucun art, ne fut-elle pas, elle aussi, prophétesse? Comme cette jeune fille refusait toujours de prendre époux quelque grand prince qu'on lui offrit, et qu'elle prévoyait tout ce que l'avenir réservait aux Troyens, elle en conçut une profonde détresse. Dans toute la période qui précéda cette boucherie entre Grecs et Troyens, plus elle voyait fleurir les fortunes de Troie et sa magnificence, plus elle pleurait, se lamentant et menant grand deuil. À contempler la splendeur et la richesse de sa cité, la beauté et la renommée de ses frères, le noble Hector si valeureux, elle clamait sans cesse les grands malheurs qui ne manqueraient pas de se produire. Lorsqu'elle vit éclater la guerre, ses pleurs redoublèrent. Elle criait, pleurait, harcelait sans cesse son père et ses frères, leur demandant pour l'amour du ciel de faire la paix avec les Grecs, car sinon, cette guerre les détruirait immanquablement. Toutefois, comme elle ne cessait de se lamenter, et à juste titre, car elle ne pouvait taire un tel désastre et tant de malheurs, son père et ses frères la battirent à maintes reprises, disant qu'elle était folle. Tout cela ne la réduisit point au silence, car même la menace d'une mort certaine ne l'eût point fait taire. Pour avoir la paix, ils décidèrent de l'enfermer dans une chambre éloignée de tous, afin que ses cris ne leur percent plus les oreilles. Pourtant, ils auraient mieux fait de la croire, car tout ce qu'elle avait prédit finit par arriver. Ainsi, ils se repentirent à la fin, mais ce fut trop tard pour eux.
France Culture, Avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons des prophétesses et des ogresses ce matin, deux représentations classiques de la sorcière qui en fait nous parlent de beaucoup, beaucoup de choses liées aux femmes, mais pas seulement. Alors, en ce qui concerne le texte que nous venons d'entendre, lu par Anna Feulpin, La Cité des Dames, c'est exceptionnel de faire de cette femme savante Cassandre un personnage si positif. Les femmes savantes, longtemps, ne vont pas être aimées du tout. Il n'y a qu'à voir même ce que Molière en fera au XVIIe siècle. Donc, c'est rarissime et ça n'a pas tellement marqué. Diriez-vous, Véronique Léonard Roch ?
Alors, effectivement, chez Christine de Pizan, on a cette insistance, hein, elle fut si instruite qu'elle n'ignorait aucun art. Donc c'est un savoir total, mais l'originalité par rapport à Eschyle, hein, ou à l'Antiquité grecque, c'est qu'en fait, ce savoir, il est dû à l'étude. Et en fait, il n'est pas du tout le fruit d'un lien au dieu. Hein, on n'est plus dans une attitude passive de réception, hein, et de restitution de ce que le dieu fait passer par le canal féminin. On est dans la figuration d'une femme extrêmement instruite qui arrive même au bout du cursus d'études, hein, du Moyen-Âge, c'est-à-dire qui maîtrise les arts libéraux, puis la médecine, puis la théologie. Et après la théologie vient la magie. Et là, on est dans une... dans une perspective de savoir complet qui est une sorte de magie naturelle, du coup, qui n'est absolument pas surnaturelle, puisqu'elle est le fruit de l'étude et de la bonne connaissance de la nature.
Hein. Et Cassandre ne va pas plus tard être récupérée en ce sens comme une femme qui se fabrique toute seule, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Oui,
les féministes ne vont pas la réinvestir. Christa Wolf a écrit une Cassandre en 1980.
Beaucoup plus tard, au XXe siècle, et quasiment à la fin du XXe siècle, Cassandre devra apprendre à se connaître elle-même, à lutter contre le point aveugle que nous avons tous, hein, c'est-à-dire ses préjugés, ce qu'elle refoule, lutter contre les siens, lutter contre elle-même. Donc c'est à l'issue d'un long apprentissage et d'un combat avec soi-même, hein, qu'elle va arriver à être authentique, autonome.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Je m'appelle Kirikou. Mère, lave-moi.
Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul. Ne gaspille pas l'eau. Caraba, la sorcière, a asséché notre source. Il est allé combattre Caraba la sorcière et elle l'a mangé.
Mère, où sont les frères de mon père?
Ils sont allés combattre Caraba la sorcière et elle les a mangés.
Mère, où sont les frères de ma mère?
Ils sont allés combattre Caraba la sorcière et elle les a mangés. Seul le plus jeune est resté. Sur la route des flamboyants, allant combattre Caraba la sorcière.
Alors, je dois aller l'aider.
Vous aurez reconnu Kirikou et la sorcière, ce magnifique dessin animé de 1998 réalisé par Michel Oslo. Elle mange tout, la sorcière. Elle mange tous les hommes, notamment. Probablement aussi les enfants. C'est pour ça que Kirikou ferait bien de se méfier. Alors là, nous touchons à un autre point, une autre caractéristique des sorcières dans leur élaboration, largement fantasmatique et littéraire, c'est leur avidité, leur anthropophagie, quelque chose autour de leur bouche, il faut bien le dire. C'est tellement important que nous voyons dans un texte clé dont nous avons
nous n'avons pas eu le temps d'en parler hier, mais c'était latent. Un texte d'un théologien, Johannes Nieder, qui écrivait dans la première moitié du XVe siècle et qui a évoqué tous les fantasmes sur les sorcières. Il ne les connaissait pas, mais il disait ce qu'elles étaient. C'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, ce théologien allemand, dominicain, dans La Fourmilière, a proposé une description des sorcières et comme par hasard, elles mangent tout et surtout les enfants.
Interrogé par l'inquisiteur sur la façon dont elle et ses comparses mangeaient les enfants, la sorcière répondit.
La manière est celle-ci. Nous faisons le guet autour des enfants. Avec nos charmes, nous les tuons dans leur berceau, même quand ils dorment à côté de leurs parents. Ceux-ci, après cela, pensent les avoir étouffés ou qu'ils sont morts autrement, de mort naturelle. Puis nous les enlevons secrètement de leur tombeau. Nous les mettons à cuire dans un chaudron jusqu'à ce que toute la chair se détache des os et devienne bien liquide. De l'élément le plus solide, nous faisons un onguent qui nous sert pour nos artifices, nos plaisirs et nos transports, en ce cas pour en oindre le bâton ou le balai. L'élément le plus liquide est versé dans un récipient comme une outre pour le boire.
Vous avez bien sûr entendu les voix ici de Carla Michel et tout à l'heure d'Anna Fulpin de notre équipe pour ses lectures. Alors Natacha Rimasson-Fertin, d'où vient cette représentation de l'avidité, de l'envie de manger des enfants, doublée, notons-le tout de suite, de beaucoup de savoir quand même. Elles savent les faire cuire, détacher les chairs des os. Enfin, il y a aussi du savoir. Hein. Mais d'où vient, d'après vous, c'est archaïque, d'où ça vient? Comment vous analysez cela, Véronique Natacha Rimasson-Fertin?
Si Véronique souhaite répondre, il n'y a pas de problème, je partage la parole avec elle. Alors, c'est une image, je ne promets pas d'avoir une réponse sûre à 100%. Peut-être, effectivement, il y a là quelque chose qui tourne autour de l'opposition entre le maléfice de la sorcière et l'innocence, la pureté de l'enfant. Sans doute aussi que on voit ici une sorte d'explication aux morts qui surviennent sans qu'on s'y attende. Dans le texte, on entend bien les parents pensent avoir étouffé les enfants.
C'est des angoisses.
Voilà, peut-être ouais. que ça retourne à cette mortalité infantile très forte et que on cherche à l'expliquer justement en lui donnant une raison fantasmée en quelque sorte une espèce d'explication surnaturelle de ce type. C'est assez complexe comme motif, ça c'est certain.
Alors chez les Grimm qui écrivent donc au début du 19e siècle dans un romantisme un peu germanique, l'ogresse va devenir centrale. Plus, par exemple, que chez Perrault au XVIIe siècle, on a le loup qui mange le chaperon rouge, figure du loup, animal, peut-être un peu une espèce de virilité, enfin c'est assez raconté hein, chez les psychanalystes. On a des mères parfois quand même gentilles, le petit pousset, sa maman, elle lui donne quand même du pain avant de l'abandonner, hein, avec le papa, évidemment, dans la forêt, avec ses 6 frères et sœurs. Et puis, finalement, ils arrivent dans une maison. Ça, c'est chez Perrault, Charles Perrault. Et puis là, c'est un ogre qui veut les manger. Et la femme de l'ogre, elle essaye de protéger les enfants. Alors que Hansel et Gretel, qui ressemblent tellement aux petits poussés, dans la première version des Grimm, si j'ai bien compris, là, c'est leur mère, la bûcheronne, qui est la pire, qui veut se débarrasser d'eux. Et ensuite, dans la maison, c'est la sorcière qui est l'ogresse. C'est la
exactement,
femme qui est l'ogresse.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Grimm?
Alors, ce qu'il faut savoir, puisque vous avez parlé de la mère est ce personnage méchant, mauvais, au début du conte, jusque dans les éditions assez tardives. C'est seulement vers la cinquième édition du recueil, donc vers 1840 et quelques, qu'on remplace la mère par la marâtre. Et donc voilà, c'est intéressant. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on ajoute tout ce passage où on a la description de la petite vieille, de la sorcière, avec vraiment ce qu'on a envie d'appeler un portrait robot,
oui.
Et ce qui s'imprime si fortement chez le lecteur.
Donc, qu'est-ce qui se passe chez les Grimm avec les femmes? Déjà, il y a plus de bonnes fées. Chez Perrault, il y avait des gens. Il y a des sages-femmes. Enfin, elles sont moins protectrices. Enfin, bon, on donnera d'autres exemples. Il y a pas l'équivalent de Podane, par exemple, où il y a quand même une bonne fée qui l'aide tout le temps.
Il y a, mais on ne dit pas que c'est une fée. Ah. C'est ça. C'est tout ce qui rend ce personnage si intéressant, c'est que on peut être frustré quand on ouvre le recueil des frères Grimm. On peut être très frustré de se dire, bah, il y a pas de fée. Et puis, les sorcières, finalement, si on compte, il n'y en a pas tant que ça sur la masse des 210 contes, textes qu'on a au final.
Oui.
230 et quelques, si on compte tous ceux qu'ils ont retranchés. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ces personnages de vieilles femmes qui sont des êtres ambivalents et qui vont être tantôt bons, tantôt mauvais.
Ah bon, elles sont gentilles parfois. Racontez-moi, parce que moi, je trouve que quand même, elles sont impressionnantes de destructivité. Et je crois qu'il se joue quelque chose quand même autour de la destructivité au féminin chez les Grimm. Mais je suis prête à changer d'avis tout de suite. Je vous écoute avec beaucoup, beaucoup de gourmandise, si j'ose dire.
Donc, si on commence par cette sorcière de Hansel et Gretel, l'ajout essentiel que les frères Grimm vont faire, et ils le font dans quelques autres textes, ils disent qu'elle... C'est un personnage qui est vraiment sournois et perfide. Hein, dans le texte final, je crois qu'il est prévu qu'il soit lu tout à l'heure. On dit quand même qu'elle avait construit sa maisonnette en pin exprès pour attirer les enfants. Donc elle leur tend un piège. Dans d'autres contes que vous aborderez peut-être, alors je parlerai pas de la marâtre, mais parfois on a justement, comme par hasard, une espèce de fusion de ces deux personnages. Un conte qui précède Hansel et Gretel dans le recueil, il est question d'une marâtre, mais on nous dit, donc elle maltraite un frère et une sœur qui prennent la fuite, et on nous dit, mais la marâtre était une méchante sorcière qui avait ensorcelé toutes les sources. Donc ils ne peuvent pas boire dans le bois,
oui,
au cours de leur fuite pour étancher leur soif. Et quand ils boivent, le petit frère est changé en faon. Alors il aurait pu se changer en tigre, il aurait pu se changer en loup. Finalement, il boit à la source la plus inoffensive. Et donc c'est cette métamorphose qui va déclencher la suite du récit. Donc on a ce pouvoir de nuisance et de métamorphose.
Est-ce que je peux juste ajouter, la marâtre est une figure fondamentale pour penser à la sorcière. D'ailleurs, c'est l'objet de notre émission de demain, du troisième épisode de cette série. Mais toutes les marâtres ne sont pas anthropophages. Là, aujourd'hui, nous parlons des ogresses qui mangent. Et par exemple, dans Cendrillon, qui est un conte commun à Perrault et au Grimm, il y a une figure de marâtre, elle n'est pas anthropophage. Par contre, dans Blanche-Neige, qui est typique des Grimm, la méchante marâtre, elle demande à son garde-chasse de lui livrer Blanche-Neige pour manger son cœur et ses poumons. Et puis, il va lui livrer un marcassin. Elles veulent manger, mais c'est fou.
Je me permets de corriger. Le cœur, ça intervient après, parce que c'est une image plus noble. Au départ, elle veut manger ses poumons et son foie.
Ah, pardon.
C'est encore moins appétissant.
Oh, je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est votre point de vue personnel. Mais disons que, quand même, il y a quelque chose autour de la bouche et de l'anthropophagie.
Et quand on mange quelqu'un, on s'incorpore sa substance. C'est le propre de ces croyances qui existent partout sur le globe. Mais on s'incorpore toute la force vitale, les pouvoirs. Donc ça c'est extrêmement répandu, et pas seulement le propre de cette sorcière ogresse.
Alors Véronique Léonard-Roch, l'idée de l'envie de manger et d'assimiler, d'un point de vue par exemple freudien, il n'y a aucun problème pour le lier à une pulsion d'emprise et de savoir, assimiler, savoir, manger, etc. Est-ce que vous diriez qu'il y a un résidu dans ces sorcières anthropophages du mythe de la femme trop savante? Négatif, hein?
Oui, peut-être. Alors c'est vrai qu'ensuite c'est déplacé du côté dont on vient de parler, qui est complètement absent dans la réception de la figure de Cassandre et de ces prophétesses-là. En revanche, on va retrouver concernant Cassandre à certaines époques, c'est-à-dire à l'époque médiévale, à partir du XIVe siècle et au XVe siècle, on va retrouver les représentations de la sorcière dont on a pu parler hier. Cassandre, elle est du côté de la fiancée de Satan. Elle est celle qui a pactisé avec le diable et elle est du côté de la magie noire. Donc évidemment, c'est une, elle est complètement négative.
Mais c'est vrai qu'on retrouve l'insatiabilité dans l'épisode premier de cette série. Elle était surtout sexuelle pour parler des représentations médiévales de la sorcière qui couche avec le diable et avec tout le monde, une espèce d'insatiabilité sexuelle. Mmh. Et puis s'agglutine dans cette représentation, se mêle à elle l'idée de l'insatiabilité en termes de connaissances et de l'insatiabilité qui fait qu'elle mange tout, quoi.
Mais je pense que pour Cassandre, ce qui domine, c'est la parole. C'est la parole qui dérange.
Oui, c'est la bouche encore. Hein.
C'est la bouche. Ouais. Et tout à l'heure, à un moment, vous avez dit figure de puissance, femme puissante. Je voudrais m'inscrire en faux.
Ah bah je vous en prie, j'adore ça.
C'est parce que
allez-y, inscrivez-vous.
En fait, sa parole est inefficace. Elle ne pèse jamais sur l'action. Et alors, ça peut être justement le fruit de ce, de cette malédiction apollinienne dont on n'a pas tout à fait parlé, qui est prêtée à Échille, elle se serait refusée, que lui prête Échille, pardon. Elle se serait refusée à Apollon après avoir accepté ses avances. Et du coup, le châtiment, c'est d'être absolument jamais cru.
Oui, mais comme mais là, la représentation, c'est que c'est elle qui produit le malheur. Vous savez bien que la représentation peut-être masculine de Cassandre, c'est que c'est elle qui produit le malheur.
Oui, alors, si ce n'est qu'après coup, on reconnaît qu'elle avait raison. Mais c'est toujours après coup. Et quand c'est trop tard, et quand le désastre a eu lieu.
Alors, il y a une autre femme de l'Antiquité qui pourrait être un peu la préfiguration des anthropophages sorcières. C'est Médée. Alors, Médée ne mange pas ses enfants, mais elle les tue. Et par ailleurs, Médée fait quand même des drôles de choses. Donc, chez Euripide, elle découpe, elle a déjà découpé son frère en morceaux pour fuir et laisser son père loin, essayer de rassembler les morceaux. Voilà, donc elle aime bien découper en morceaux. Et après, et plus tard, pour venger Jason de son oncle, elle suggère aux filles de cet oncle de le découper en morceaux, de le mettre dans une marmite, quand même, dans une marmite, et elle affirme que sortira un joli petit chevreau, ce qui évidemment ne se produira pas. Donc il y a quelque chose chez Médée qui préfigure la marmite, où on découpe des gens en morceaux, certes, on n'avale pas les morceaux.
Oui, ben, Médée, de toute manière, le monde grec antique lui prête une filiation avec Hécate, qui est la déesse, la divinité patronne des sorcières. Donc, elle a dans sa famille, voilà, un certain nombre de figures féminines de la nuit, dont Hécate. Et c'est tout particulièrement chez Sénèque, d'ailleurs, que va être développée cette représentation fantasmatique de la femme qui, sur scène, va, utiliser ses pouvoirs en termes de secret de la nature pour renverser le temps et pour empoisonner sa rivale. Je dirais que effectivement Euripide a mis en place ou a popularisé cette image de la figure de Médée qui découpe en morceaux ses ennemis, mais c'est vraiment Sénèque qui va lui donner toute sa force scénique dans l'incarnation sur scène de cette figure, pour le coup, de puissance. Alors là, on est complètement dans la puissance, une puissance que n'avait pas Cassandre.
Alors, on va finir l'émission sur les Grimm quand même. Natacha Rimasson-Fertin, vous en êtes la spécialiste. Et pour introduire ce dernier moment où nous revenons vers l'univers des sorcières ogresses de Grimm, écoutez cet extrait de Hansel et Gretel.
C'était déjà le troisième matin, après qu'ils avaient quitté la maison de leur père. Ils se remirent à marcher, mais ils ne faisaient que s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt. Et si personne ne venait bientôt à leur secours, ils allaient mourir de faim. Quand il fut midi, ils virent un beau petit oiseau, d'un blanc immaculé,
qui était perché sur une branche et qui chantait si joliment qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Et quand il eut fini de chanter, il battit des ailes et s'envola devant eux. Et les enfants le suivirent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite maisonnette, sur le toit de laquelle l'oiseau se percha. En s'approchant, ils virent que la maisonnette était faite de pain et qu'elle avait un toit de gâteau. Quant aux fenêtres, elles étaient faites de sucre clair. « Attaquons et faisons un bon repas. Je vais manger un morceau du toit. Et toi, Gretel, tu peux manger un bout de la fenêtre, elle est sucrée, » dit Hansel. Il leva le bras et cassa un petit morceau de toit pour le goûter. Quant à Gretel, elle s'approcha des vitres et entreprit de les grignoter. Une voix fine leur parvint alors de l'intérieur de la maison. « Croque, 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 ma maisonnette, qui la grignote ?» Les enfants répondirent « C'est le vent !» C'est le vent, le céleste enfant, tout en continuant de manger sans se laisser distraire. Hansel, qui trouvait le toit fort à son goût, en arracha un grand morceau. Quant à Gretel, elle démonta une vitre ronde, tout entière, s'assit par terre et s'en donna à cœur joie. La porte s'ouvrit soudain, et une femme, vieille comme Mathusalem, qui s'appuyait sur une canne, sortit de la maisonnette à pas de loup. Hansel et Gretel furent si effrayés qu'ils laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains. La vieille faisait seulement semblant d'être gentille. En réalité, c'était une méchante sorcière qui guettait les enfants. Et elle avait construit la maisonnette de pain dans l'unique but de les attirer. Quand un enfant lui tombait entre les mains, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Et c'était pour elle un jour de fête. Les sorcières ont des yeux rouges et elles ne peuvent pas voir loin. Mais elles ont l'odorat très fin, comme les animaux. Et quand des humains s'approchent, elles le sentent.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Lu par Riyad Kera, c'était un extrait de Hansel et Gretel des frères Grimm. Dans votre traduction, Natacha Rimasson-Fertin. Alors moi, je ne sais pas où vous voyez de l'ambivalence, mais j'ai l'impression que cette vieille sorcière mangeuse d'enfants n'est que le mal, que la destructivité, qu'il n'y a précisément aucune ambivalence.
Alors celle-là, là, je suis absolument d'accord avec vous. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un ajout tardif. Donc oui. Là, c'est un conte avec les enfants, donc on peut lui prêter une certaine valeur à la fois de mise en garde, mais on s'interrogeait justement en préparant l'émission sur la leçon, qu'est-ce qu'il apprend, quel message délivre ce conte.
Oui.
Moi, je trouve qu'il délivre un message à plusieurs niveaux. C'est un conte qui parle quand même de solidarité entre le frère et la sœur, puisque, bon, on sait bien que c'est Hansel qui utilise ses fameux petits cailloux blancs et ses miettes qui achèveront de les perdre dans la forêt, mais c'est sa sœur qui va le délivrer. Et oui. Là, on a une héroïne qui prend quand même sacrément les choses en main.
Oui.
Et puis, c'est aussi la leçon, c'est la ruse. Et la ruse, c'est la fille qui l'a.
C'est vrai. En allant sur un cygne blanc, non ? Je me trompe ?
Alors, ça, c'est la fin, mais c'est elle qui pousse la sorcière dans son four,
ouais.
Alors qu'elle devait y passer elle-même.
Et puis, il fuit avec ce cygne blanc.
Et
bon,
voilà.
Alors, moi, j'ai une dernière question. Tout à l'heure, j'ai dit que chez Perrault, il n'y avait pas d'ogresse. Il y a quand même une très grande exception. C'est La Belle au bois dormant de Perrault, où, fidèle à Giambattista Basile, qui était un auteur de contes antérieurs, il donne, et c'est souvent peu connu, une suite à ce que nous connaissons habituellement, la Belle au bois dormant qui se réveille, il se marie, etc. Chez Perrault, la mère du roi ne supporte pas sa belle-fille et ne rêve que de la manger et de manger ses petits-enfants. Ses enfants, c'est-à-dire en fait, oui, à elle, ses petits-enfants. Bon, ça, là aussi, grâce à un cuisinier maître d'hôtel charmant, ça ne va pas avoir lieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ogresse, par exemple chez Perrault, c'est le contre-Édipe, c'est-à-dire la mère qui veut manger tout ce qui s'approche de son fils. Chez les Grimm, les sorcières, elles mangent tout le monde. Elles mangent
de manière
vraiment
assez indifférenciée.
Tout le monde. Oui, voilà. C'est très indifférencié. Elles mangent absolument tout le monde. Et c'est au-delà du d'enjeu, je dirais, édipien. Vous êtes d'accord ?
Oui, manifestement, oui. Oui, tout à fait. Mmh.
Et alors, en même temps, chez les Grimm aussi, l'équivalent de peau d'âne de Perrault, c'est sans doute peau de mille bêtes. Et là, on a une fille incestueuse. chez les Grimm. C'est-à-dire, elle veut conquérir finalement le roi qui est son père et qui voulait coucher avec elle. Alors que dans Podane, c'est un autre roi que Podane va séduire. Donc,
non, elle séduit pas du tout son père.
Parce que c'est la représentation de Pierre Péju qu'on aura demain.
Oui. Non, et puis elle va surtout... Enfin, c'est un texte où c'est un des rares textes où les Grimm font une toute petite allusion politique en disant que cet inceste, s'il survenait, le narrateur dit que ça plongerait le royaume entier dans sa perte. Donc là, il n'y a absolument aucun inceste chez les frères Grimm.
Donc, non, elle veut séduire un autre homme que son père.
Elle séduit un autre roi, et tout à fait par hasard d'ailleurs. Il n'y a pas d'intention particulière de sa part.
Mais donc, l'avidité est quand même un enjeu très féminin chez les Grimm. Ça, c'est un apport important. Vous êtes d'accord?
Vous voulez dire avidité...
Sous toutes ses formes. Sexuelle sans doute, mais surtout passant par l'oralité et par l'anthropophagie.
Alors, si on revient, on a ces quelques exemples de sorcières, mais je dirais pas que c'est l'image qui domine. Ce qui est intéressant peut-être pour revenir sur le rôle féminin, c'est que, en fait, il se passe, comme je le disais, 50 ans entre le moment où les Grimm commencent à travailler sur les contes, hein, où ils sont tout jeunes, ils ont à peine une vingtaine d'années, et le moment où ils publient le recueil là, sous sa version définitive, qui est quand même vraiment plutôt à la fin de leur vie. Le contexte a considérablement évolué et on se situe quand même dans une société extrêmement patriarcale, extrêmement pieuse. Donc on va avoir énormément de contes qui vont délivrer et qui vont être modifiés au cours du temps dans ce sens-là pour délivrer un message de mise en garde. Et il y a un texte très peu connu au début du recueil, relativement dans les numéros 40, qui s'appelle Dame Trude. C'est un conte qui tient en une demi-page et là c'est une petite fille qui désobéit à ses parents, qui dit voilà, il y a cette voisine, Dame Trude, je veux absolument aller la voir. Il paraît qu'il se passe plein de choses extraordinaires chez elle. Ses parents lui disent, si tu y vas, tu ne seras plus notre enfant. Et donc elle se rend là-bas, elle voit tout un tas de choses extraordinaires dans l'escalier. Elle pose des questions à cette dame qui lui répond. Donc là, on a encore une fois un lien avec le savoir, même si on ne sait pas encore de manière certaine que c'est une sorcière. Et pour finir, qu'est-ce qui lui arrive? Cette dame Trude lui dit « Écoute, je t'attendais depuis longtemps. » Elle la change en bûche et elle la jette au feu. Et elle se réjouit de voir ce feu qui brille si clair pour une fois. Et donc ce texte-là, il est très souvent, en général, la lecture dominante qui en est faite. C'est un conte de mise en garde.
Et bon, très bien. Véronique, on est d'accord. J'ai perdu vos... Voilà, Léonard Roch, vous avez 30 secondes pour votre propre conclusion, finalement, de Médée et Cassandre à Hansel et Gretel. C'était un peu fou de parler de tout ça dans cette émission, mais je crois que ça marchait.
Oui, bah certainement, parce que on retrouve des femmes qui sont jugées excessives, en particulier pour le savoir, l'avidité de savoir qu'elles peuvent montrer. Hein. Et surtout, alors je dirais concernant Cassandre, à partir du moment où on quitte les univers magico-religieux ou les systèmes religieux instaurés, et au XXe siècle, c'est vraiment très très net. C'est une figure qui est récupérée pour dire la volonté de savoir des femmes.
La vieille que l'on brûla pour des histoires de sorcières hier. Plus qu'un tas de cendres, qu'un vent frôle les cendres, disperse dans les rues du village endormi. Sur la place du marché, pour des histoires de sorcières. Approche-toi, curé. Embrase les fagots que le feu purifie. Mmh.
Et sur cette chanson de 1978 du groupe Ripaille, chanson qui s'intitule « La vieille que l'on brûla », je vous propose d'en venir à la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il nous parle du centre et de la périphérie. Voici le pourquoi du comment.
Comment oppose-t-on le centre et les extrêmes ? Lorsqu'on parle de centre en politique, il apparaît qu'on passe d'une image géométrique de cette notion de centre à une autre, au moins en apparence, car ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Le centre en politique, l'image qui nous vient tout aussitôt, ce n'est plus ou ce n'est pas le centre d'un cercle, ni même le centre d'un demi-cercle, disons un hémicycle, cette notion première de centre en géométrie, malgré tout, qui nous vient de la notion de cercle. Mais en politique, quand nous parlons de centre, c'est plutôt en utilisant l'autre notion géométrique de centre, le centre non pas d'une droite, puisqu'une droite est infinie, mais le centre d'un segment de droite. Alors le centre, c'est quelque chose comme l'entre-deux. C'est ce qu'on appelle aussi métaphoriquement le milieu, reprenant ici d'ailleurs une notion biologique, plus clairement biologique encore que la notion de centre, même si la notion de centre a un aspect biologique. Nous sommes tous des centres d'action, comme dit Bergson. Chaque corps vivant doit se considérer comme un centre dans son milieu, précisément. Mais dans l'image géométrico-politique, disons, le centre est plutôt le milieu, l'entre-deux, le point médian, en quelque sorte, entre deux directions opposées, et non seulement deux directions opposées, mettons la gauche et la droite, puisque le centre détermine aussi des asymétries dans le monde, non seulement deux directions opposées, mais comme on le disait, deux termes extrêmes, puisqu'il n'y a de centre que s'il y a des extrêmes. Le centre, sur une droite infinie, n'existe pas. On peut arbitrairement dire il y a un point, et puis après la gauche et la droite. Mais pour vraiment parler de gauche, de droite, de manière claire, il faut un centre, mais il faut aussi un segment, et donc des extrémités. L'image politique, pour le meilleur et pour le pire, en quelque sorte, du centre, c'est donc que le centre se situe d'abord, par distinction, avec des extrêmes, avec des extrémités. Et peut-être la force, mais aussi le risque de l'image du centre en politique, du centrisme en politique, c'est de minorer l'opposition des deux directions, l'opposition, l'asymétrie des positions politiques, par exemple la gauche et la droite, mais de majorer le risque, en quelque sorte, des extrêmes, des extrémités. On pourrait dire que structurellement, le centre s'oppose aux extrêmes. Il construit une opposition politique, non pas seulement entre deux directions, la gauche et la droite, dans un cadre commun qui peut dériver effectivement à l'infini des deux côtés, mais il construit structurellement l'opposition entre une position médiane, qu'on dira aussi modérée, et une position d'extrémité, qu'on dira aussi extrême et peut-être dangereuse en tant que telle. C'est la force et c'est aussi le risque de l'image du centre ou de la position qu'on pourrait dire centriste en général, si elle n'est plus du centre-gauche ou du centre-droit, mais du centre comme tel. Alors il y a deux risques majeurs dans cette structure imaginaire de la représentation du vivant et de la politique. Le premier risque, c'est de construire vraiment l'opposition principale de la politique entre justement la modération et l'extrémité. Et d'une certaine façon, on fait non seulement ici une symétrie entre tous les extrêmes, mais on construit une sorte de polarisation déformée qui n'est plus celle de deux options politiques raisonnables sur un même sujet, mais du raisonnable et du déraisonnable, du médian et de l'extrémité, du modéré et de l'ultra. Il y a alors un risque profond, c'est que cet imaginaire de l'extrémité, conçu comme un danger symétrique, vient occulter la différence des polarités, des oppositions qui constituent pourtant la démocratie. Et le deuxième risque, c'est qu'on revienne subrepticement d'une image du centre à l'autre, c'est-à-dire du centre géométrique entre deux extrêmes au centre du monde qui domine l'ensemble du monde alors qu'il est occupé ici, normalement, par le centre d'un cercle, c'est-à-dire dans l'hémicycle parlementaire, par le perchoir. C'est une place vide. Le centre entre deux extrêmes, c'est une position politique. Le centre de l'hémicycle, c'est la place vide de la démocratie.
Merci Natacha Rimasson-Fertin et Véronique Léonard-Roch, nos deux invités d'aujourd'hui. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Florent Bujon. Merci aux équipes techniques de France Bleu Isère qui ont permis ce duplex avec Natacha Rimasson-Fertin. Cette émission a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Axel Dubois, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.